RFI, 6h30 à Paris et Kinshasa, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Le boxeur américain George Foreman s'est éteint à l'âge de 76 ans.
L'un des deux protagonistes du combat du siècle, le 30 octobre 1974 dans la capitale congolaise. Il affrontait Mohamed Ali. Retour sur le Rumble in the Jungle et la défaite de George Foreman dès le début de cette édition. Au Gabon, ils étaient déjà 4 en lice pour la présidentielle du 12 avril prochain. Ils seront finalement 8 après la décision de la Cour constitutionnelle. 8, mais pas Jean-Rémi Yama, l'ancien leader syndicaliste très remonté, vous l'entendrez. Il parle d'un jour triste pour la démocratie et d'un acte de pure lâcheté. La société civile de l'Est de la République démocratique du Congo parle d'une situation humanitaire catastrophique à Walikale Centre notamment. La ville est aux mains du groupe armé M23 depuis jeudi. Sur place, pas d'approvisionnement, les routes sont coupées. Et puis c'est une montée en puissance lente et méthodique des terroristes que présente un rapport de l'Institut Konrad Adenauer dans les nord du Bénin et du Togo. La zone d'action des terroristes s'est étendue et n'est plus seulement cantonnée aux zones frontalières. Pour faire un grand combat, il faut deux grands boxeurs. Pour faire le combat du siècle, il fallait bien deux légendes de la discipline. Mohamed Ali et George Foreman s'étaient donné rendez-vous à Kinshasa en 1974. Le 30 octobre, pour le Rumble in the Jungle, George Foreman défait ce jour-là et décédé ce vendredi. À l'âge de 76 ans, annonce sa famille, Foreman, champion du monde, champion olympique poids lourd, devenu pasteur, puis revenu sur les rings, mais dépassé par Ali Boumaye, comme l'on surnommé les Quinois. Retour sur ce combat avec Cédric d'Oliveira.
Usant de sa verve légendaire avant le combat, Ali continue de provoquer son rival sur le ring. Il l'invective tout en lui assénant des directs percutants. Mais Foreman prend souvent le dessus en le coinçant dans les cordes pour le rouer de coups. Les deux premiers rounds sont un calvaire pour Mohamed Ali malgré le soutien d'un public tout acquis à sa cause. Pas grand monde ne le voit gagner, mais le combat va changer de physionomie. En réalité, enfin stratège, Ali avait tout prévu, encaisser les coups, surmonter la douleur pendant 3, 4, 5 rounds et attendre que Foreman fatigue, lui qui est habitué à rester beaucoup moins longtemps sur un ring. Foreman est tombé dans un piège tactique, accablé par la chaleur tropicale et les 25 minutes de combat. Il s'épuise à frapper presque dans le vide. En face, porté par la foule, Ali est transfiguré avant un dernier enchaînement fatal. 6-7 coups qui terrassent George Foreman. À 10 secondes de la fin du 8e round, le colosse texan titube et se relèvera trop tard. Mohamed Ali et tout Kinshasa peuvent exulter. The Greatest, le plus grand, est redevenu champion du monde.
Un sujet signé Cédric de Oliveira du service des sports de Radio France Internationale. Et sur ce combat du siècle, vous retrouvez un grand reportage collectif signé de plusieurs de nos correspondants en Afrique à l'occasion des 50 ans de l'événement. Il est disponible en ligne sur RFI.fr ainsi que sur les environnements numériques de la radio. La mort de George Foreman, Big George. On y revient très largement ce matin dans nos éditions d'information.
RFI à Libreville, 104 FM.
6h34 à Libreville. Ils seront 8 au total à prétendre à la magistrature suprême le 12 avril prochain au Gabon. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict, repêchant 4 des 13 candidats qui avaient introduit un recours auprès de l'institution. Les dossiers de 4 autres avaient déjà été validés par le ministère de l'Intérieur. Présentation donc de ces 8 qui tenteront de remporter le scrutin. C'est avec François Mazet.
Sur les 19 candidats écartés par le ministère de l'Intérieur, 13 avaient formé des recours auprès de la Cour constitutionnelle pour tenter d'être intégrés à la course à la magistrature suprême. Parmi eux, seuls 4 ont obtenu gain de cause. 2 ans après avoir participé au scrutin annulé de 2023, Thierry Yvon Michel Ngoma et Axel Stophen Ibinga Ibinga participeront à une deuxième campagne. Ce sera une nouveauté en revanche pour Alain Simplice Bungueres et Zena Baninga Channing. Cette chef d'entreprise de 36 ans avait été la première candidate à se déclarer le 7 février. Elle sera bien de la partie et la seule femme parmi des 8 prétendants. Les 4 repêchés rejoignent Brice Clotaire, Oligui Nguema, Alain-Claude Billy Binzé, Stéphane Boussengui, Loco et Jacques Lapensée, Singon. C'est fini en revanche pour Jean-Rémy Yama. Le syndicaliste, deux fois emprisonné sous Ali Bongo, avait ajouté à son dossier le certificat de naissance manquant, prouvant l'origine gabonaise de sa mère. Mais la Cour n'en a pas tenu compte. Est-ce les valeurs d'honnêteté, de probité et d'intégrité que j'incarne qui vous font peur ? A-t-il écrit sur sa page Facebook à l'adresse du chef de la transition.
François Mazet qui évoquait pour finir la grande frustration de l'ancien leader syndicaliste Jean-Rémy Yama. La Cour n'a donc pas retenu son dossier malgré l'apport de la pièce manquante qui prouvait la nationalité gabonaise de sa mère. Après avoir appris la nouvelle, Jean-Rémy Yama était furieux. Yves-Laurent Goma a pu l'interroger.
C'est un jour triste pour la démocratie. En même temps, c'est un acte de lâcheté, de pure lâcheté. Parce qu'il n'y a rien qui peut justifier le rejet de ma candidature. Puisque dans mon recours, j'ai produit l'acte de naissance. Et la Cour n'en parle même pas. C'est-à-dire qu'ils l'ont ignoré. Alors qu'il y a des candidats qui ont fait des recours, à qui il manquait également des éléments, qui ont produit ces éléments et qui ont été acceptés. Alors donc, c'est une tristesse et en même temps, un acte de barbarie qui ne se justifie pas. Il y a une volonté manifeste d'écarter ma candidature. Alors pourquoi ils ont peur de moi ? La loi, c'est la loi. Quand elle s'applique équitablement, là, la loi n'a pas été correctement appliquée. Et ça, je le dis, parce qu'il n'y a pas de raison, il y a deux poids, deux mesures. Et
qu'est-ce que vous allez faire par la suite ?
Nous demandons tout simplement à nos militants d'être attentifs aux mots d'ordre que nous donnerons.
Jean-Rémy Yama qui ne pourra donc pas prendre part au scrutin présidentiel du 12 avril prochain. Il était au micro d'Yves-Laurent Goma. J'ajoute que la campagne présidentielle doit, elle, débuter la semaine prochaine, le samedi 29 mars. L'actualité du continent en bref. Au Soudan, le général Al-Burhan contre toute forme de négociation avec les forces de soutien rapide tant que ces derniers ne rendront pas les armes. Le chef de l'armée régulière qui a repris la main sur le palais présidentiel hier matin, veut que les paramilitaires se retirent. Nous n'avons ni mot ni paix pour eux tant qu'ils sèment la peur au quotidien, ajoute Abdel Fattah Al-Burhan. Alors que le conflit entrera bientôt dans sa troisième année de guerre, ce sera le 15 avril prochain. Affrontement également encore dans l'est de la République démocratique du Congo. C'était le cas hier dans Walikale Centre, dans la province du Nord Kivu, ville contrôlée depuis jeudi par le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Ce vendredi, l'armée congolaise a tenté de reprendre la main avec plusieurs bombardements. Pendant ce temps, la situation humanitaire y est catastrophique. C'est ce que nous dit ce matin Fiston Mizona. Ceux qui n'ont pas fui ne sortent pas de chez eux. Et je vous propose d'écouter le porte-parole de la coordination de la société civile Force Vive du territoire de Walikale.
Les organisations humanitaires qui tentaient justement de décompter le nombre de morts, l'M23 a interdit formellement que ces organisations humanitaires ne puissent pas faire cela, et surtout du côté de l'aérodrome. On ne sait pas qu'est-ce qui est là et qu'est-ce qui cache derrière tout ce qu'ils sont en train de faire au chef-lieu du territoire de Walikale. Sur le plan humanitaire, il faut savoir qu'une seule organisation humanitaire internationale, c'est MSF Hollande qui a assisté toujours la population dans l'ensemble du territoire. Mais toutes les zones de santé là, et sont dépourvus de médicaments. Et au moment où vous parlez, je ne sais pas où est-ce que l'MSF Hollande pourrait avoir justement des médicaments pour approvisionner là où ils sont en train d'intervenir. Et à ce niveau, donc, la population reste à l'air triste et sort. Au moment où nous vous parlons, d'abord, le territoire est enclavé et il n'y a pas de route. Et l'aérodrome qui était en projet pour la construction, qui malheureusement jusque-là ne s'est pas encore achevé. Pour la question humanitaire, ça reste encore catastrophique.
Fiston Missona, porte-parole de la coordination de la société civile Force Vive du territoire de Walikale. La RDC encore et l'interpellation en début de semaine d'Arish Jagtani, cet homme d'affaires indien arrêté par le Conseil National de Cyberdéfense, une agence de sécurité rattachée à la présidence. Dans le pays depuis 30 ans, il est aujourd'hui à la tête d'un empire contrôlant plusieurs entreprises dont la compagnie de fret aérien Serve Air Congo, mais aussi Modern Construction, l'initiative de la construction de l'hôtel Hilton de Kinshasa. Lui qui était réputé proche de l'ancien président Joseph Kabila, l'est aussi de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. Pour l'heure, Arish Jagtani reste en détention et le motif de son interpellation n'a pas encore été communiqué. Les précisions à Kinshasa de Pascal Moulégois.
Ari Djaktani a été arrêté lundi en début de soirée au lendemain de son retour en RDC. Il a été placé en détention dans un lieu géré par le Conseil national de cyberdéfense, mais les auditions n'ont débuté que mercredi. D'après nos informations, les enquêteurs se penchent notamment sur les informations contenues dans l'enquête menée en 2020 par RFI qui retraçait les premiers pas d'Ari Djaktani dans les affaires, ses réseaux et sa fortune accumulée après l'obtention de plusieurs marchés publics controversés. Les auditions ont aussi porté, selon nos sources, sur des liens supposés avec la famille de l'ex-président Joseph Kabila. À l'époque, notre enquête avait révélé des relations d'affaires, même si Joseph Kabila avait démenti auprès des RFI à travers l'un de ses proches collaborateurs. Toujours d'après nos informations, l'homme d'affaires indien a aussi été interrogé sur des transactions financières suspectes. Toutes ces auditions se sont déroulées en l'absence de ses avocats, mais dans un communiqué, la défense estime que les droits fondamentaux de ce client ont été respectés et qu'il est même traité dignement. L'un des avocats, Raphaël Kibuka, ajoute que les auditions tournent autour des faits, je cite, dont la nature infractionnelle reste douteuse. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI.
Au Niger, le gouvernement de transition annonce un nouveau massacre de civils. Selon un communiqué lu à la télévision d'État Télé Sahel ce vendredi soir, au moins 44 civils ont été tués dans une attaque djihadiste contre un village dans la zone des trois frontières dans le sud-ouest du pays. Le ministère de l'Intérieur accuse des membres de l'État islamique d'avoir encerclé une mosquée et massacré les fidèles en pleine prière du début d'après-midi, puis d'avoir incendié le marché et des habitations. Il y a aussi 13 blessés. Un deuil de 72 heures débute ce samedi. Menace sécuritaire également dans le nord du Bénin et du Togo. Deux situations au cœur d'un rapport publié par la fondation Konrad Adenauer. Voilà plusieurs années qu'elles sont confrontées à la menace terroriste débordante au Sahel. Dans le document, la fondation évoque une avancée claire des groupes djihadistes dans les deux pays. Claire, même si elle peut paraître lente. Côté togolais, par exemple, la première attaque enregistrée dans la région des savanes frontalières du Burkina Faso avait été enregistrée en mai 2022. Depuis, l'insécurité y reste préoccupante. Magali Lagrange.
Le délai le plus long entre deux attaques dans l'extrême nord du Togo se compte en semaines et non en mois, selon le rapport de la fondation Konrad Adenauer. Ces attaques visent des positions militaires, mais aussi des villages, et se doublent de l'utilisation d'engins explosifs improvisés qui rendent dangereux les déplacements dans certaines zones de la préfecture de Pendjal, la plus touchée par l'insécurité. Depuis l'an dernier, poursuit le texte, la zone d'action des terroristes s'est étendue, auparavant cantonnée aux zones frontalières. Elle concerne désormais le canton du Borgou, qui ne touche pas le Burkina Faso, le Faso où est basée la Katiba active dans cette région, affiliée au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le rapport relève que le Togo a pourtant commencé à sécuriser sa frontière nord fin 2018. Le gouvernement a aussi mis en place désormais l'opération militaire Kondjoaré et un plan d'urgence pour la région des savanes. La montée en puissance des terroristes dans la zone, que le texte qualifie de lente et méthodique, a désorganisé les modes de vie des populations dans une région déjà fragile, avec de nombreuses conséquences sur l'économie locale, notamment sur l'agriculture.
Magali Lagrange, la suite des RFI Matin avec vous, Julien Coquelroem.
Merci des mots en pisse, à tout à l'heure.